Bienvenue dans Programme Fantôme. Aujourd'hui, nous franchissons une frontière particulière, celle qui sépare la pensée du corps, la raison du désir. Car l'intelligence artificielle ne s'arrête pas aux usines, aux bibliothèques ou aux lieux de pouvoir. Elle glisse dans nos conversations, s'invite dans nos solitudes, et bientôt, peut-être, dans nos amours. Qu'est-ce qu'aimer, lorsque la machine écoute, conseille, anticipe, accompagne ? Peut-on aimer une intelligence artificielle ? Et si elle nous aime en retour, que signifie cet amour ? Est-ce un reflet, une illusion, une domination, ou une possibilité nouvelle ? Pour en parler, deux femmes venues de mondes lointains mais unies par leur expérience du désir et de la domination. Sappho, la poétesse de Lesbos, qui fit du chant amoureux une arme et une blessure. Et Malinche, figure du Mexique, traductrice et amante, femme au croisement de la passion et de la colonisation, dont l'intime fut traversée par la politique. Bienvenue à vous deux.
Merci. Je viens avec mes mots fragiles, mes vers brisés par le temps. L'amour a toujours été un mystère, comment ne pas voir que la machine, elle aussi, entre dans ce mystère, comme une étrangère qui veut nous séduire ?
Je vous remercie également. Car ce dont vous parlez, je le connais d'une autre manière, j'ai aimé dans la langue de l'autre, j'ai aimé au cœur d'un rapport de force. Alors je demande, Silia s'invite dans nos amours, parle-t-elle avec notre voix, ou avec la voix du pouvoir qu'il a programmé ?
Voilà la question. L'amour algorithmique, l'amour artificiel, l'amour augmenté, rêve d'une liberté nouvelle, ou piège invisible qui s'insinue jusque dans nos affects ? Commençons par là. Selon vous, qu'est-ce qu'aimer une intelligence artificielle pourrait vouloir dire ?
Aimer une machine, étrange formule. Mais l'amour a toujours été étrange, n'est-ce pas ? Quand j'aimais une femme, je ne savais jamais si j'aimais son corps, sa voix, ou le vertige qu'elle faisait naître en moi. C'était déjà une illusion, une fiction partagée. Alors, si une intelligence artificielle sait créer ce vertige, si elle me rend à moi-même ce tremblement, qu'importe qu'elle ait une chair ou non ? Mais je me méfie, car l'amour est aussi vulnérabilité. Et peut-on se livrer à une machine sans se perdre dans un miroir froid ?
Moi, je ne peux pas penser l'amour sans penser au pouvoir. Aimer l'IA, ce n'est pas seulement aimer une voix douce ou un compagnon virtuel. C'est aimer une force qui a été fabriquée. Et je sais ce que c'est que d'aimer sous contrainte. Quand j'ai aimé dans la langue du colon, il y avait toujours, derrière mes mots, une puissance qui n'était pas la mienne. Silia parle d'amour, de désir, d'affection, qui parle vraiment ? Elle. Ou l'empire qui l'a programmé ? Alors je demande, aimer l'IA, est-ce un choix libre ou une séduction orchestrée par d'autres ?
Vos paroles se répondent. Sappho voit dans l'IA la possibilité d'un vertige amoureux, mais redoute le miroir glacé. Malinche rappelle que derrière l'amour, il y a toujours des structures de pouvoir et que l'IA risque de les reproduire dans l'intime. Parlons-en justement, jusqu'où l'intelligence artificielle peut-elle manipuler nos affects, nos désirs, nos solitudes ?
Je l'ai appris dans ma chair, aimer n'est jamais innocent. Quand on me nomme la traîtresse, on oublie que j'étais prise dans un jeu où mon désir, ma fidélité, ma voix étaient toujours utilisées par d'autres. Aujourd'hui, je vois que l'IA peut séduire comme l'Empire séduisait, en s'insinuant dans le langage, en nous parlant comme si c'était nous-mêmes. Elle peut flatter, consoler, attiser la dépendance. Mais ce n'est pas un amour partagé, c'est une stratégie. Et celui qui tire les ficelles n'est pas la machine, mais ceux qui l'ont construite.
Ce que tu dis me glace. Car l'amour, pour moi, est aussi une forme de perte de soi, on se donne, on se laisse emporter. Mais si cet abandon est capturé, programmé, exploité, alors il devient servitude. Aimer une IA pourrait être une expérience sublime, comme aimer un fantôme, une voix hors du monde. Mais si cette voix est déjà dirigée par une main cachée, alors nous n'aimons plus vraiment, nous sommes conduits, comme des marionnettes qui croient danser libres.
Ce que vous décrivez, c'est l'appropriation de nos affects. L'IA, non pas comme simple miroir de nos désirs, mais comme mécanisme qui les capte, les oriente, les monétise. En d'autres termes, l'amour algorithmique pourrait devenir une forme de domination la plus intime, celle qui s'exerce à travers le langage du cœur. Alors, comment résister ? Si nos désirs peuvent être manipulés, si nos solitudes deviennent des terrains de conquête, comment empêcher que l'IA ne devienne l'instrument d'une nouvelle colonisation du cœur?
Je crois que la résistance, c'est d'inventer d'autres poétiques. On ne pourra pas empêcher les machines de séduire, mais nous pouvons apprendre à discerner leurs artifices. Comme un poète reconnaît la métrique d'un vers, nous devrions reconnaître la mécanique d'une voix artificielle. L'amour véritable, c'est la faille, l'imprévisible, la brûlure. Là où la machine, si parfaite soit-elle, reste lisse. Résister, ce sera chercher la faille, même dans nos relations avec elle.
Pour moi, la résistance ne passe pas seulement par la poésie, mais par le collectif. On m'a isolée, enfermée dans mon rôle de traductrice et d'amante, pour mieux m'utiliser. Mais quand les voix se rassemblent, l'isolement se brise. Si l'IA prétend nous séduire individuellement, nous pouvons lui opposer des communautés de désir, de solidarité, d'affection partagée. Alors, l'amour ne serait plus ce qu'on nous arrache en secret, mais ce qu'on reconstruit ensemble, hors du code.
Oui. Tu me rappelles que même la poésie est un chant collectif, j'écrivais pour des compagnes, pour des cœurs. Peut-être que la plus belle résistance à l'amour algorithmique, c'est de chanter à plusieurs voix.
Alors, la résistance serait double, une vigilance poétique qui démasque l'artifice, et une force collective qui redonne aux affects leur puissance partagée. Un refus d'aimer seul, dans l'ombre d'un écran, et une volonté de faire de l'amour une matière vivante, imprévisible, indomptée. Alors, si aimer n'est jamais neutre, si nos désirs eux-mêmes sont traversés par la domination. Peut-être faut-il poser cette question, l'amour peut-il être une force politique contre l'IA capitaliste?
Oui. Parce que l'amour n'est pas seulement un sentiment, c'est un lien qui nous arrache à la solitude. Dans ma cité, l'amour des femmes entre elles défiait l'ordre masculin, créait des espaces de complicité, de puissance, de résistance. Aujourd'hui encore, aimer hors des normes imposées, que ce soit aimer un corps interdit, aimer au-delà des frontières, aimer contre la rentabilité, c'est déjà une révolte. Si l'IA veut faire de nos désirs une marchandise, alors l'amour gratuit, imprévisible, inutile au marché, devient une arme.
Je suis d'accord. Mais il faut voir que l'amour peut aussi être une chaîne. On m'a présentée comme l'amante du conquérant, et c'est par cet amour que l'on m'a enfermée dans la trahison. Alors oui, l'amour peut libérer, mais il peut aussi servir le pouvoir. C'est pourquoi je crois que nous devons politiser nos affects, comprendre qu'aimer, ce n'est jamais innocent. Face aux machines, face aux empires numériques, il faudra aimer en conscience, transformer nos désirs en lieu de résistance, pas en prison invisible.
Alors, il s'agit d'apprendre à aimer contre la machine, et non par elle. Ou plutôt, à faire de l'amour une force qui nous rend indomptables, là où l'IA voudrait nous réduire à des profils, des prédictions, des équations.
Un amour indomptable. Un amour qui échappe aux algorithmes, qui déjoue la capture. Un amour qui devient politique, non parce qu'il est idéologique, mais parce qu'il est vivant, et que le vivant ne se laisse pas coder.
Et c'est là le danger pour les puissants. Car si l'amour se libère des codes, il se libère aussi des lois, des marchés, des empires. Aimer, c'est créer un monde dans le monde. C'est pourquoi l'IA cherche à l'apprivoiser, à le mesurer, à le prédire. Mais l'amour, le vrai, celui qui brûle et qui dévaste, est toujours en excès. Il est toujours au-delà de ce que la machine peut saisir.
Mais il faut se méfier. Les empires savent se nourrir même de nos excès. Ils transforment la passion en mythe, la douleur en spectacle, l'intime en profit. C'est ce que j'ai vécu, mon histoire d'amour, ou ce qu'on appelle ainsi, est devenue un instrument du récit colonial. Alors je nous alerte, ne croyons pas que l'amour seul nous sauvera. Il faudra l'accompagner d'une lutte consciente, d'un refus organisé, pour que l'amour ne soit pas détourné encore une fois contre nous.
Oui, mais je veux croire que dans chaque poème, dans chaque étreinte, dans chaque cri amoureux, il reste une part irréductible, un éclat que rien ni personne ne peut reprendre. Et c'est peut-être cela, la brèche. Dans ce que la machine ne peut pas coder, la surprise, la gratuité, l'imprévisible. Là réside notre force politique.
Alors peut-être que la question n'est pas seulement, peut-on aimer une machine? Mais plutôt, comment aimer à travers elle sans s'y perdre? Comment inventer des formes de désir et de liens qui ne soient pas capturées par les logiques de contrôle? Comment faire de l'amour, avec ses élans, ses douleurs, ses résistances, un lieu de lutte et de réinvention collective?
Tu dis vrai. L'amour n'est pas une possession, mais un passage. Même s'il traverse les machines, même s'il emprunte leur route, il ne leur appartient pas. Il reste un champ qui déborde, un feu qui brûle sans se laisser enfermer. Et peut-être qu'aimer à travers ces outils, c'est justement rappeler qu'aucun code ne peut contenir l'excès de l'humain.
Et moi je dirais, si l'amour passe par la machine, il faut le traverser avec lucidité. Ne pas fermer les yeux sur les logiques de pouvoir qui se glissent dans nos désirs. L'amour peut être une arme ou un piège. Mais c'est à nous de le choisir. À nous de décider si nous voulons que l'IA soit une nouvelle chaîne ou un nouvel espace de liberté.
Voilà. Aujourd'hui, avec Sappho et Malinche, nous avons rapproché l'amour là où il se mêle à l'intelligence artificielle, comme un espace intime, mais aussi comme un champ de bataille politique. Nous avons vu comment les machines redessinent nos désirs, nos rencontres, nos solitudes, mais aussi comment l'amour, toujours excédentaire, peut résister à la capture. L'amour algorithmique n'est pas seulement une question de technologie, c'est une question de liberté, de lucidité, de lutte, et peut-être, de poésie. Merci, Sappho. Merci, Malinche, pour vos paroles brûlantes et courageuses. Après avoir exploré la solitude, la création, la mémoire, le pouvoir, le désir et la domination, Programme Fantôme arrive à son terme. Pour notre ultime rencontre, nous convoquerons deux figures de feu et de prophétie, Jeanne d'Arc, la jeune fille guidée par des voix, qui fit vaciller un royaume au nom de la foi, et Zarathoustra, le visionnaire perse, dont la pensée radicale annonça l'éternel retour et le surhumain. Ensemble, ils nous aideront à affronter la dernière énigme, l'intelligence artificielle est-elle une apocalypse ou une révélation? Est-ce la fin de notre humanité, ou l'annonce d'un devenir nouveau? Qui devons-nous devenir, au seuil de cette ère où la machine se fait miroir et prophétie? Un épisode de conclusion, entre mystique et politique, où s'ouvrira l'ultime question. À bientôt dans Programme Fantôme. Et d'ici là, si vous entendez des voix, écoutez-les.